À travers tous les miroirs est un livre dans lequel Ursula Pris, la fille de Max Frisch, parle d'elle, de son père et de leur relation, de l'enfance à l'âge adulte, où elle accompagne son père jusqu'à sa fin. Pour rendre les différents sentiments de cette relation riche et passionnelle, qui sont parfois paradoxaux, voire antinomiques, Ursula Pris a laissé libre cours à sa mémoire dans une construction qui n'est ni chronologique, ni géographique, mais au rythme de souvenirs qui reviennent. Morceau par morceau, elle construit une suite de petits tableaux qui finalement forment une fresque. Je vous propose de lire quelques extraits en alternance avec Madame Pris, puis je reviendrai plus précisément sur certains aspects du texte. Sylt, en été 1952. Sylt est liée avant tout pour moi à la tension entre mes parents, une tension qui ne se déchargeait jamais. Je ne me rappelle d'aucun mot plus haut que l'autre, de toutes ces années, pas un seul. Les tasses ne volèrent jamais, les portes ne claquèrent pas. Seule cette tension muette, menaçante en permanence, qui te coupe le souffle. Quoi d'autre? On allait se baigner à la mer du Nord, on allait à pied dans les bruyères et l'Empetrum, l'un derrière l'autre, parce que le chemin était si étroit entre les broussailles piquantes, par endroits aussi sur des planches et des passerelles en bois. Dans mon souvenir, ce chemin était insupportablement long. Et justement, qu'aucun mot ne soit prononcé. Seulement cette marche, l'un derrière l'autre. Muet, si épouvantablement muet, jusque là-bas, vers les dunes, devant la mer ouverte. Et je vois mon père, comme il se tient devant le déferlement des flots. Il reste debout, reste immobile, et regarde vers la mer pendant que nous sommes blottis entre les dunes, avec nos serviettes nouées autour de nous. Le vent marin, inhabituel pour nous, est froid et mordant, et la violence des vagues arrivant avec un bruit de tonnerre effrayante. Je ne supportais pas longtemps de sauter dans les vagues, l'embrun salé dans la figure, même en tenant la main de mon père, mais me blottis rapidement à nouveau entre les dunes. Et subitement, mon père saute tête en avant dans un rouleau et disparaît. Ma mère, à côté de moi, crie « Max !» Pas plus, seulement ce cri étouffé, désespéré, que le vent déchire. Puis je vois, mon père a ressurgi sur le dos de la vague suivante. Il nage à forte brassée, ne regarde pas derrière, seulement devant, la prochaine vague en vue. Et de nouveau il disparaît, à nouveau avalé par la mer. Mais maintenant je sais, il va y arriver, il va revenir vers nous. Quelle chance quand il revient sur la terre ferme après infiniment longtemps. Il arrive, jeté par une vague sur le sable, au début marchant encore à quatre pattes, cherchant à se soustraire au remous de la mer, de nouveau sur ses jambes et agitant les bras autour de lui, venant vers nous, du bonheur dans le regard. Mais il ne dit rien, pas un mot, pas une fois comme c'était magnifique ou dangereux, rien. Ce qu'il avait interloqué, je ne le savais pas, elle le savait quand même. Et la visite chez Teta à Kampen. La maison en chaume entourée d'un vieux verger, avec des buissons de petits fruits, des groseilles rouges et blanches et noires, toutes sont mûres. J'en mange par gourmandise, me doutant que cela pourrait ne pas être permis, que je devrais au moins demander. Je pique juste ça et là quelques grains de chaque buisson un petit peu, personne ne remarquera. Mais après, lorsqu'il me trouve loin au fond du jardin entre les buissons, je sens, tombée de mon bonheur groseillé, la culpabilité. Ce à quoi je me suis laissée entraîner n'est pas correct. Le regard de mon père me le dit clairement. Teta, pourtant, qui était venue à ma recherche avec lui, me lave en riant de toute faute. Tant que tu nous en laisses encore un peu. Et soudain je sus, sans comprendre l'image que j'avais devant les yeux. Il ne s'agissait pas des groseilles, mais je ne devais rien gâter de ce qui se passait entre mon père et la belle et rousse Teta. De Sylt, nous sommes rentrés en Suisse sans lui. Il restait encore pour le travail. Dans le frais de la mer du Nord, il pouvait très bien travailler. De surcroît, la déception de ma mère, plus tard plusieurs fois exprimée, qu'il l'ait laissée seule avec les trois enfants, faire tout ce long trajet de retour à travers l'Allemagne. Seulement maintenant, en écrivant, je comprends ce qui l'avait blessé.
Moi, je lirai en allemand. Nachtrag zu Sylt. Schwimmen lernen im Zürichsee. Der Vater hielt mich fest am Schwimmgurt aus aneinandergefädelten Korkstücken, während die Mutter vom Ufer aus zuschaute, vermutlich kommentarlos. Aber ich meine die Uneinigkeit der beiden, wie das Kind, ich, schwimmen lernen solle, wie es mir beizubringen sei, noch zu spüren, während ich meine ersten verzweifelten Schwimmzüge tat. Hinzu kam, dass es nicht irgendwo am Zürichsee war, sondern am Badeplatz vor dem Haus der Eltern meiner Mutter. Natürlich hat das Schwimmen nicht auf Anhieb geklappt und eine echte Schwimmerin bin ich nie geworden. Zwar kann ich mich über Wasser halten, aber mit Wohlbehagen eintauchen und größere Strecken zurücklegen ist mir nicht gegeben. Was ja auch nicht weiter schlimm ist. Es mindert nicht meine Lust, am Wasser zu sitzen, aufs Wasser zu schauen, am besten eigentlich an einem Wasser zu leben. Idealerweise in Istanbul, der von Wasser umarmten Stadt. Fatal ist nur, dass ich selbst es ziemlich ähnlich hielt, als meine Kinder schwimmen lernen sollten in einem schleswig-holsteinischen See. Was allerdings deren Schwimmen können inklusive Lust am Wasser nicht beeinträchtigt zu haben scheint, wie sich zeigte. Und ob sie sich an ihr erstes Schwimmenlernen erinnern, wäre noch zu fragen. Bleibt also die Frage an mich selbst, warum alles so kam, wie es gekommen ist zwischen meinem Vater und mir.
Don Juan, par exemple. Nous marchons avec notre mère qui est venue nous chercher à l'école, en bas à la Pfauenplatz. Et tandis que nous avançons, la question angoissée de ma mère, qu'elle ne formula pas, bien sûr, mais que je crois ressentir encore quand je nous vois descendre la Rémystrasse, elle dans une robe d'été légère, oscillant à chaque pas. Son souci, pas seulement parce que nous étions en retard, mais justement aussi, qu'en était-il de Max et de cette comédienne dont le nom avait bourdonné à nos oreilles ces dernières semaines? Avait-elle joué Donna Elvira ou quelqu'un du genre? Nous passons par l'entrée de derrière, devant le chef de plateau qui annonce en riant « Les petits friches arrivent !» Après avoir traversé la scène, descendu le petit escalier, nous nous asseyons dans la salle, déjà sombre, quelques rangs derrière le pupitre de régie où mon père est assis, à côté du metteur en scène. Il se tourne vers l'arrière, nous fait un petit signe et pose ses doigts sur ses lèvres. Il a l'air nerveux et aussi agacé. Et ma mère à côté de moi, tendue, muette. Mais ensuite, lumière sur la scène, la pièce commence. Entrée en scène des personnages dans des costumes magnifiquement beaux. Ils vont, viennent, parlent ensemble, racontent et plaisantent, rient et menacent. Je comprends que ça part dans tous les sens. Je comprends évidemment pourquoi. À cause de l'amour. Quoi d'autre? Jusqu'à ce qu'on tire finalement les épées. Le bruit des lames qui se croisent, le mouvement de danse des escrimeurs, leur voix qui sautille par-dessus, légère, ludique, hardie, défiant la chance, et bien sûr, habillée de blanc scintillant, le plus magnifique, l'irrésistible Don Juan. Sûr de vaincre, mettant tout en jeu, la vie, l'amour, l'amitié, risquant tout. Eh bah, toutes les belles femmes, toutes avec une nostalgie dévorante de lui, de l'audacieux qui n'en veut aucune vraiment, ni comme personne et encore moins comme épouse, qui les prend seulement toutes où elles s'offrent à lui, au passage, sur le chemin de l'essentiel, de la géométrie magnifique. Et le nom monstrueux de Don Juan, je l'ai encore dans l'oreille, et lorsqu'il est ignoré encore une fois, son nom, surpris, désespéré, qu'il ne soit pas pris au sérieux. Et la dernière image, Don Juan attendant son épouse, maintenant quand même, outré qu'elle ne soit pas encore là. Et quand elle arrive enfin, faisant la coquette avec son indisposition, il glisse une chaise sous elle, à table. Voici l'image de la répétition générale que je balade avec moi depuis l'époque. J'ai toujours particulièrement aimé Don Juan, sans jamais me demander pourquoi cette pièce en particulier. Sa splendeur et son humour, le ton gaiement séducteur, dissimulant l'abîme entre les sexes de façon fantasmagorique, Je ne comprenais pas l'annulation du mariage, le désespoir, la résignation. Au contraire, il me semblait voir une promesse dans le fait que ces tensions qui coupaient le souffle allaient une fois prendre fin, que c'était possible de vivre dans l'amour. La deuxième version de Don Juan, jouée pour la première fois à Zurich en 1964, dans mon souvenir, elle avait complètement disparu jusque-là, jusqu'au tri des lettres. Pourquoi ? Dans la lettre de mon père du 4 août 1964, que j'ai relue maintenant, comme si c'était la première fois, la phrase « Le monde n'est pas là, Ursel, uniquement pour te faire la cour. » Une lettre pleine de colère et de rage à propos du comportement de sa fille. Elle aurait disparu sans faire de commentaires après la dernière répétition avant la générale. Et à la fête, après la première, pareil, plus que décevant. Étriqué, cassant, dédaigneux, lisais-je avec un air pincé. Oui, c'est vrai, Max avait raison. Ce n'était pas possible ainsi. En relisant, le souvenir confus que cette lettre m'avait vraiment blessée. Une lettre dans laquelle le père tend à sa fille un miroir si précis et sans pitié. Pour cette raison, je déchirai cette lettre. En tout cas, l'original n'existe plus. Il ne reste que la copie machine aux archives. Dans cette lettre, Max évoque aussi notre conversation à propos du luxe. C'était, lisais-je, Asper Langa. Moi, j'étais si sûre qu'on en avait parlé dans le port de Naples. Avec ces mots, cela signifie « Nous avons parlé d'avarice, l'avarice des sentiments, de montrer ses sentiments. »
Je continue. Nachtrag zum Geizen mit Gefühl. Und noch einmal dreht sich alles um 180 Grad. Nicht nur, dass ich geizte mit Gefühl, offenbar war meinem Vater doch und trotz allem nicht völlig egal, was ich, seine Tochter, zum Stück und zur Aufführung meinte. Wäre also möglich, dass nicht nur ich taub war, sondern auch er mir, trotz all seiner Sprachmacht, nicht sagen konnte, was er, der Vater, sich von mir, seiner Tochter, wünschte. Ich erinnere kein einziges Mal, auch dies mag sein, stimmt so nicht, dass er mich in der Öffentlichkeit in den Arm genommen und mich dezidiert als seine Tochter ausgegeben hätte. Stolz auf das blühende Geschöpf, durch das er in der Welt ist, hat er, meine ich, nicht zu sagen vermocht, aber geschrieben hat er es, gemünzt auf Gantenbeins und Lilas Tochter Beatrice. Was mir bleibt, Staunen über die Hürden, die die beiden Vater und Tochter zwischen sich aufgebaut hatten. Und Staunen über die Abgründe, die sich auftun beim Erinnern.
Dernière promenade. À Zurich ensuite. Après l'ultime adieu de Max à Bertzona, une promenade dans la forêt, en dessus de l'hôtel d'Holder. Elle eut sûrement lieu à la fin de l'automne 1990. Les chemins étaient couverts d'une neige fine et fraîche. Je glissais tellement avec mes semelles lisses que Max dit qu'il ne pouvait malheureusement pas me tenir, que maintenant il devait faire attention à lui. Lors de cette promenade, il parla encore une fois d'Ingeborg, encore une fois aussi de l'épisode des roses changé quotidiennement à la clinique où il lui avait rendu visite pour lui dire adieu avant de partir pour New York. Il avait été à l'époque encore assez naïf pour tomber dans le panneau, mais aussi à quel point Ingeborg avait dû être désespérée pour organiser une telle mise en scène. Et lui, oui, avait tout cru et rien, absolument rien compris. Pendant que je m'agrippais aux barrières ou aux buissons pour ne pas tomber, je lui ai raconté quelques-uns de mes malheurs et embrouilles et leur exemplarité fatale. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la fatalité n'est jamais ou rarement, l'événement lui-même, mais se trouve dans l'obsédante et exemplaire répétition, malgré toutes les tentatives d'y échapper. Une autre promenade, le long du lac, jusqu'au Zürichhorn. Dans la cabane de pêcheurs, nous avons mangé une bricole, et sur le chemin du retour, à travers le parc, nous avons regardé la boule de marbre noir qui flotte véritablement sur un filet de quelques millimètres d'eau. Encore une fois, cela éveilla la curiosité de Max. Comment se fait-il que cette boule qui pèse des tonnes puisse tourner par la simple force d'un doigt? Quelle loi physique rend-elle possible ce qui semble impossible à l'œil, ce qui défie l'expérience visuelle de toute une vie? Après avoir fait bouger et tourner la boule dans tous les sens, au cas où une ruse nous aurait échappé qui nous laissait croire au miracle, Max parla des domaines dans lesquels il n'avait eu, sa vie durant, aucune connaissance, ou à peine. Il pensait en particulier aux sciences naturelles, à propos desquelles il ne savait, disait-il, que bien trop peu. S'il s'était assis, par exemple, avec M. von Goethe, qu'il n'aurait sûrement pas apprécié comme homme, et que celui-ci lui ait demandé de lui parler de l'électricité, il n'aurait rien pu lui dire d'autre que « cela passe par les fils ». La lumière, on l'allume et on l'éteint, mais comment se produit l'électricité? Grâce à des turbines, près des barrages, oui, ou grâce au nucléaire, mais ce que c'est vraiment? Et tout ce qu'il n'a pas lu, à commencer par les philosophes, et tout ce qu'il aimerait encore savoir s'il avait la chance de l'apprendre encore. Et il parla aussi à nouveau de la mort, de sa mort. Jamais de la peur ou de quoi que ce soit de flou, mais avec précision, de comment tout cela se passera quand ça arrivera. Non, il ne disait pas quand ça arrivera, mais bien plutôt quand je mourrai, serai mort.
Alors je vous lis un rêve. Le 14 mai 2001. Heute Nacht habe ich dich umarmt, dich als alten Mann. In deinen letzten Jahren. Und ich habe geheult und geflennt im Traum, dass es so ist, wie es war zwischen uns, fern. Voller Angst vor Verletzung und doch immer auch voller Sehnsucht. Im Traum tat ich es, diese Ferne überspringen. Ich konnte es. Hemmungslos schluchzte ich in deinem Arm, mein Gesicht an deiner Schulter. Warum nur haben wir es so schlecht gemacht miteinander? Dein Arm um mich, tröstend und gleichzeitig trostlos. Du sagtest nichts, nichts Neues, nichts, was du im Leben nicht auch gesagt hättest. Aber ich spürte deine Resignation und deine Trauer ohne Worte. Neue Worte gab es nicht im Traum. Im Leben. Die Chance haben wir tatsächlich und unwiderruflich vertan.
Comme vous venez de l'entendre, dans nos lectures en français et en allemand, Ursula Prisse fait intervenir son père à différents niveaux. Max Frisch apparaît avant tout comme le père d'Ursula Prisse. Mais il sera ensuite aussi présent comme homme dans sa relation aux femmes, son épouse, ses différentes compagnes et Ingeborg Bachmann en particulier. Et aussi bien entendu comme écrivain et auteur de théâtre. Le rôle de père se manifeste sous deux formes. Ursula Prisse exprime d'une part, à plusieurs reprises, la difficulté sociale d'avoir comme père celui qu'elle appelle un personnage public. Ce père, qu'elle a tant aimé et parfois détesté, et auquel elle rend un magnifique hommage en verbalisant sa tristesse de l'avoir perdu, sans qu'ils aient jamais pu vraiment se parler, se comprendre comme elle l'aurait voulu. Elle le fait d'autre part intervenir littérairement comme écrivain, et ce de différentes manières. D'abord, elle emprunte au roman de Max Frisch, Montauk, la structure formelle globale de l'ouvrage, à savoir une structure fragmentaire dont les morceaux, plus ou moins courts, portent des titres en lettres majuscules. De même, Ursula Prisse reprend le jeu entre les pronoms personnels « je » et « elle », jeu que l'on vient d'apprécier dans le passage sur Don Juan, et que l'on retrouvera dans les premières pages du récit que je lirai tout à l'heure. Ce jeu correspond au passage entre « je » et « il » de Montauk. Frisch explicite ce changement de pronom personnel en disant « Quand je fais mon entrée comme le je du journal, je me dissimule mieux que lorsque je fais mon entrée sous la forme d'un il, donc dans le roman. Le je est paradoxalement une forme plus pudique que le il. » Prisse alterne ces deux pronoms dans la même perspective. De plus, plusieurs phrases sont reprises telles quelles ou quasiment, tant de Montauk que du roman « Mein Name sei Gantenbein ». Dont le titre allemand du récit de Prisse, Sturz durch alle Spiegel, est un exemple. En effet, on peut lire dans Gantenbein, Es ist ein Sturz durch den Spiegel, mehr weiß einer nicht, wenn nicht erwacht. ein Sturz wie durch alle Spiegel. Und nachher, kurz darauf, setzt die Welt sich wieder zusammen, als wäre nichts geschehen. C'est comme une chute à travers le miroir. On ne sait rien de plus quand on se réveille. Une chute comme à travers tous les miroirs. Et, tout de suite après, le monde se reforme comme si rien ne s'était passé. Un autre exemple est ce dialogue drôle et complice entre la petite Ursel, âgée de 6 ans qu'elle était, et son père, que Max Frisch a relaté dans son journal et qu'Ursula Prisse réintroduit très fidèlement dans son texte en explicitant la reprise. Dans ton premier journal, tu écris à propos de la petite Ursel qui s'interrompt au milieu d'un jeu et te demande si tu aimerais bien mourir. Tout le monde doit mourir, réponds-tu, mais personne ne meurt volontiers. Moi, je meurs volontiers, aurait dit la petite Ursel selon ton journal. Maintenant, demandes-tu, vraiment ? Maintenant pas, non, pas maintenant. Tu laisses tomber ta revue pour voir la petite Ursel qui est assise à table et mélange ses couleurs. Mais plus tard je mourrai volontiers, écris-tu qu'elle aurait dit pendant qu'elle peignait avec une joie tranquille. Les reprises plus ou moins fidèles et explicites à de nombreux livres, 7 précisément que l'auteur cite à la fin de son ouvrage, sont si nombreuses que l'on ne peut guère faire plus ici qu'évoquer le procédé. Différents jeux de miroirs s'entrechoquent dans ce récit, comme l'indique le titre. Le premier miroir est celui de la fille qui se voit à travers les yeux du père et du père qui est vu à travers les regards de sa fille. Nous avons aussi relevé les passages du jeu au elle et du elle au jeu. Pronoms personnels au miroir qui font écho au miroir, au passage du jeu au il de Montauk. Le livre d'Ursula Prisse est aussi traversé par l'homme que l'on pourrait appeler l'amant de Venise. Cet homme a un statut avant tout littéraire. Il intervient au début et à la fin du livre et en sous-tend la structure globale. C'est pourquoi nous terminerons cette lecture en lisant le début du livre et Ursula Prisse la fin du livre. La présence de l'amant unifie les différents fragments afin qu'ils forment un tout. Ils permettent aussi à la narratrice d'être une femme qui connaît les liens amoureux et leur complexité. Elle n'est pas seule dans l'affrontement avec son père, elle peut prendre de la distance. Son statut de femme et la possibilité qui lui est offerte de relativiser la relation paternelle, si souvent conflictuelle, lui permettront de trouver ou de retrouver son identité et d'accepter ou de mieux accepter d'être la fille de Max Frisch. L'amant de Venise se situe comme homme au miroir, non seulement avec l'homme Max Frisch, mais aussi avec l'amant qu'il est aussi d'Ingeborg Bachmann. La narratrice joue alors sur un pied d'égalité. La fille a un amant, comme le père a des maîtresses. Et par là même, Ursula se trouve au miroir, comme femme et artiste avec Ingeborg, femme et romancière, face à Frisch. La boucle se referme lorsque l'on apprend que cet amant a aussi probablement été celui d'Ingeborg Bachmann. En conclusion, ce récit offre davantage que le portrait d'une relation fille-père. Il se donne comme un jeu de miroir complexe. Ce jeu existe au niveau formel, dans la mesure où la structure de Montauk se retrouve dans le miroir autobiographique tendu par Ursula Prisse, mais aussi au niveau du contenu, dans la reprise de passages précis, tant des œuvres de Max Frisch et même d'Ingeborg Bachmann, que de ses contemporains comme Peter Bixel ou Philippe Roth. De plus, chaque personnage est un miroir et ou un miroir. Ursula Prisse comme femme et fille de Max Frisch, Ingeborg comme femme et maîtresse, toutes deux romancières, l'amant comme homme et amant, et bien sûr Frisch comme écrivain et comme père, dans toute sa complexité. La richesse de l'intertextualité et les personnages, tous en miroir, poussent la narratrice dans ses derniers retranchements. En effet, tout ce qu'elle peut découvrir d'elle et des autres passe toujours à travers tous les miroirs. C'est donc toujours par un biais indirect et personnel qu'elle appréhende la réalité et découvre à ses souvenirs une cohérence et un sens. Ce n'est qu'à l'issue de tous ces détours qu'Ursula Prisse pourra affirmer qu'elle est à la fois elle-même et la fille de Max Frisch. Je vous propose de lire encore le début du livre et Ursula Prisse lira la fin. Alors comme ça, Frisch, c'est votre père. Elle fut effrayée qu'il ne dise pas Max Frisch ni Monsieur Frisch. Et avant tout, sur quel ton il le disait. Mais lui aussi sembla effrayé. Elle tourna la tête. Jusque-là, ça avait été un jeu, rien de plus. Il s'était téléphoné tout l'été. Il l'appelait régulièrement. Ça lui plaisait que ce soit lui qui appelle, toujours plus souvent, jusqu'en automne. Il appelait de différents endroits quand il était en voyage, en voiture, en train, à la chasse. Elle ne l'appellerait jamais, lui promit-elle très vite, sans qu'il le lui demande. Ses téléphones lui plaisaient. Ils étaient drôles et légers. Souvent, elle éclatait de rire à ce qu'il racontait. Une fois, un dimanche après-midi, depuis les forêts slovènes, ce matin de bonne heure, j'ai tué un cerf. Et maintenant, je suis très content. Alors, j'ai pensé à vous et je vous ai appelé. Et quand son appel ne venait pas pendant quelques jours, elle commençait à attendre. À chaque sonnerie, l'attendre. Et quand le téléphone restait muet, tendre l'oreille. Ne sonnerait-il pas enfin? Et en même temps se demander si elle ne l'avait pas ennuyé lors du dernier téléphone et qu'il ne ressentait maintenant plus l'envie de continuer à bavarder avec elle. Souvent le matin, elle écrivait ce qu'elle avait rêvé pendant la nuit ou ce qu'elle avait lu la veille qui, pensait-elle, pourrait lui plaire lors du prochain téléphone. Tout ce qu'elle lisait cet été-là, tous les textes qu'elle cherchait pour son anthologie sur Istanbul, elle le lisait toujours en se demandant aussi ce qu'elle pourrait lui raconter. Et puis, j'aimerais bien vous voir, j'aimerais vous rencontrer n'importe où et parler avec vous. Bien sûr, elle avait espéré en arriver là. Elle aussi le désirait. Venise s'offrait à eux. Une exposition qui les intéressait les deux, Venezia et l'islam. Lui comme collectionneur d'objets d'art islamique et elle, qui était souvent tombée sur Venise dans son travail, voulait découvrir comment on voit Istanbul depuis la lagune. Mais ensuite, elle y était allée pour le voir lui, avant tout pour ça. Près de la colonne Saint-Marc, quand elle s'approcha, elle ne vit personne qui lui ressemblait, même si elle ne savait plus vraiment de quoi il avait l'air. Plus d'un an s'était écoulé depuis qu'ils s'étaient vus pour la première et unique fois à un vernissage. Il avait parlé des vieilles broderies précieuses en soie d'Asie centrale, de leur confection et de leur utilisation, de la signification de leur décoration et, ce qui lui plut, des différentes histoires qui pouvaient être liées à chaque pièce. Qui étaient les brodeuses, les commanditaires, pour quelles fêtes, dans quelle famille avaient-elles servi de décoration et aussi, qui les apporta, par quel chemin, en Russie, en Europe, en Inde, qui étaient ceux qui les amenèrent jusqu'en Israël. Mais elle trouva particulièrement charmant qu'il ne se gêne pas d'exprimer sa fascination pour la beauté de ces tissus, leur couleur, leur forme, l'aspect satiné et doux de cette broderie, et qu'ils caressent l'une ou l'autre presque tendrement, lui semblait-il. Elle le reconnaîtrait tout de suite, évidemment, elle en était sûre. Elle fit une fois le tour de la colonne, regarda autour d'elle, regarda ensuite vers l'eau. Et alors, s'il ne venait pas? Elle avait rêvé qu'il ne viendrait pas et s'était demandé si elle devait décommander son voyage. Enfin, laisser tomber les illusions. Mais ensuite, peu importe ce qui se passera, saisis la balle au bon. Et s'il ne vient pas, tu imagineras comment cela aurait pu être. Ben alors, vous êtes là? Cette voix qu'il avait ensorcelée tout l'été, séduite, attirée, maintenant qu'elle était devant lui, elle était surprise, comme cet homme lui est étranger. Pourtant, elle dit « C'est magnifique que vous soyez vraiment venu. » Sur quoi, il la prit dans ses bras. Elle s'étonna que cela se passe si facilement, que cela soit comme c'est maintenant. « Pourquoi ne viendrai-je pas si je dis que je viens ?» Il riait, ses yeux étincelaient, elle riait aussi. Et tout parut très léger et très facile.
Non, on parlera de ce qui s'est passé entre le commencement et la fin. Quand même, je lis la fin maintenant. Das jener Herr, dem sie in Venedig begegnet ist, all meinen Berechnungen und allen Recherchen zufolge eben derjenige sein muss, der damals in Rom und anderswo herumgespukt ist als ein nicht zu greifendes Phantom, an dem mein armer Vater mit seiner verdammten Eifersucht fast krepiert ist. Heute? Ohne Zweifel würde Max dieser Zufall gefallen, als Konstruktion. obwohl ich nicht sicher bin, ob gefallen das richtige Wort ist, aber interessiert hätte es ihn schon. Und wenn ich ihm sagen würde, dass einige der Merkmale, die er dem jungen Geck schreibend verpasst hatte, dem Herrn in Venedig, warum sage ich nicht einfach dem alten Geck, wie aus dem Gesicht geschnitten sind, dann, ja, dann würden wir, was sonst, in ein Irrsinnsgelächter ausbrechen und anstoßen auf die Unüberbietbarkeit der real erfahrenen Verstrickungen, hinter denen die Imaginierten immer hinterherhinken müssen. Das wirklich ist, als habe die Wirklichkeit mich mit meiner Geschichte erraten. Und ich habe es nicht bloß gedacht. Aber warum bist du so sicher über den Grund seiner Flucht? Bist nicht du selbst es, die nichts anderes sich vorstellen kann als das Verhängnis? Wäre nicht auch denkbar, dass er, der galante, charmante, dafür keine Worte hat, dass er nur Wortloses fallen lassen kennt, wie er es vermutlich mit jenen Dingen tut, die er für seine Sammlungen in Besitz zu nehmen erwägt, dann aber doch verwirft? Oder könnte auch sein, dass er durch Verschweigen dir und sich weiteren Gesichtsverlust zu ersparen wünscht, weil er weiß, erfahren wie er ist, dass derartige Affären leicht zum emotionalen Bumerang werden? Verletze ich mich am eigenen Wahn? Ja, sagte sie an jenem ersten Mittag in Venedig beim Aperitif im Florian, lachend, um den Schreck zu überspielen, sie haben es richtig erkannt. Ich bin die Tochter von Max Frisch.